invité de la rédaction. Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Francine Méran, psychiatre de profession, très investie dans l'art au service de la mémoire de la Shoah et des génocides, avec différentes interventions auprès des élèves de lycée de la région autour des thématiques de l'exil ou encore de l'humain inhumain. Aujourd'hui, c'est un nouveau projet dont nous allons parler, un projet interscolaire franco-allemand. Ça, c'est une nouveauté. Francine Méran, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aviez envie, vous, de mettre dans ce projet un lycée allemand. Donc, c'est du côté de Kiel que ça se passe. Pour quelles raisons ?
Je trouvais important que... D'abord, Kiel fait quasiment partie de Strasbourg. Et c'était important de faire le pont avec Kiel, justement, de faire le lien avec Kiel. Et puis, c'était l'occasion aussi de travailler avec Friedrich Peter, qui est responsable de la mémoire et de l'histoire de Kiel, de l'histoire des Juifs de Kiel, et aussi... Quelqu'un d'extrêmement investi, qui dévoue intégralement sa vie à créer des liens avec l'ancienne communauté juive de Kiel, d'avant la guerre, et qui se dévoue aussi au niveau des écoles pour faire des interventions scolaires, pour les pauses de Stolperstein, pour que des écoles se manifestent pour des parcours de Stolperstein régulièrement. Donc, comme je suis liée avec Friedrich Peter et qu'on a déjà des projets communs, je l'avais introduit à Niederödern quand je suis allée poser la Stolperstein à Niederödern. Il est venu avec moi à Niederödern et depuis, il a créé le lien. Puisque moi je suis intervenue dans l'école de Niederödern, il a créé un lien avec l'enseignante qui est venue avec ses élèves à Kiel faire le parcours de Stolperstein et le contact est gardé et je pense que le contact va continuer entre eux. Donc ce fait de faire des liens des deux côtés de la frontière, même si pendant le Covid on a de nouveau recréé la frontière, étonnamment, en tout cas je trouve que c'est important, c'est ce qui permet aussi de garder un espace de dialogue et puis ça permet aussi de fonctionner avec des enseignants d'allemand de Strasbourg, qui sont ravis de fonctionner aussi avec des enseignants, parfois de sections bilingues, à Kiel, à Lahr et à Rheinau.
Alors, avant de parler de ce projet, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à expliquer pour quelles raisons cette frontière allemande, franco-allemande, même dans ce domaine de la mémoire qui est immatérielle, elle reste si présente. C'est compliqué, on a rencontré nous récemment des membres de la communauté juive de Kiel. Alors ils n'ont pas de synagogue mais ils prient en un endroit bien précis. Pourquoi est-ce que ce lien est encore si compliqué ? Ce sont ça les stigmates de la guerre et c'est, j'allais dire, vous êtes psychiatre, c'est une fracture, c'est une mémoire intergénérationnelle, c'est quelque chose qu'on porte encore.
Je crois quand même que les Français, les Alsaciens français vont assez peu à Kiel, malgré tout. Je pense que ça reste une trace. Moi, j'avais exposé pour la commémoration du pogrom de la nuit de cristal, mais je ne sais plus en quelle année. Et Madame Simone Pollack était venue avec moi, était intervenue. Il y avait un témoin qui était intervenu. Mais il y avait, ce jour-là, il y a eu un certain nombre de Français quand même qui sont venus, de Strasbourgeois qui sont venus. Mais pour le reste, maintenant je vais voir. Là, il y a une soirée d'ouverture de lancement du projet. On va voir qui vient et qui se déplace. J'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on voit quand même très très peu de Strasbourgeois qui viennent dans des manifestations. Alors bon, il y a aussi le problème de la langue, parce qu'à Kiel, tout ce qui est à Kiel est en allemand, pas traduit. Et je pense quand même, d'abord au niveau de la jeune génération, il y a une vraie réticence à apprendre l'allemand et ça reste aujourd'hui le problème. Ça l'était déjà de mon époque, hein, on avait du mal à apprendre l'allemand. Donc ça joue aussi, il n'y a pas ce côté bilingue de ce qui se passe à Kiel, de la même façon qu'il n'y a pas ce côté bilingue de ce qui se passe à Strasbourg. Parce qu'il y a aussi très très peu de gens de Kiel, enfin, franchement quasiment pas, qui viennent à Strasbourg. Pour donner un exemple, là, il y a la soirée d'ouverture. Moi, j'ai diffusé. Alors, j'ai déjà une quarantaine de personnes qui vont venir, mais je pense qu'il y en aura plus. Friedrich me disait, il y en aura 15 peut-être chez lui. C'est-à-dire que ça se passe à Strasbourg, l'ouverture. Oui. Et donc, peut-être que ce n'est pas simple non plus de faire venir ceux de Kiel. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui vont venir, encore une fois. Hein, mais c'est pas si simple, aussi à cause de la barrière de la langue, je pense.
Et puis cette frontière, oui. Somme toute, côté allemand, côté français, il va falloir, quand on parle du bassin rhénan, c'est une idée sur papier, mais c'est pas si facile. Alors vous parliez de ce projet, donc il est lancé, vous le disiez, le lundi 8 avril, valise mémoire. Alors vous allez le lire en allemand, je vais me faire un plaisir de vous écouter. Koffer der Erinnerung, c'est cela ?
C'est ça, exactement.
Alors, ça se passe chapelle de la rencontre, c'est juste en face.
En fait, c'est en face de la clinique Réna, ouais. C'est une chapelle multiculturelle. chapelle. C'est une chapelle qui a été entièrement rénovée et dont l'objectif est la multiculturalité. Donc, ce n'est pas seulement la multiculturalité franco-allemande, mais c'est la multiculturalité puisque ça se trouve au port du Rhin et que l'objectif est de nourrir un lien aussi avec le quartier. Bon, dans le contexte d'aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué de nourrir un lien avec le quartier depuis le 7 octobre. Donc,
Vous sentez ça dans vos interventions ?
Alors, je vais dire clairement, en fait, moi, je l'ai senti, j'ai arrêté mes projets. On m'a demandé d'arrêter les projets en novembre. En novembre, il y avait une réunion juste après le 7 octobre, lorsqu'il y a eu, je ne sais plus quel responsable palestinien, enfin, de Gaza, qui a annoncé un vendredi noir, enfin, je ne sais plus comment il l'a appelé, qui a dit qu'il devait y avoir des attentats dans le monde entier ou en Europe, enfin, je ne sais plus. J'avais une réunion à la chapelle de la rencontre à ce moment-là. J'étais à l'arrière et on ne m'ouvrait pas la porte. À côté de moi, il y avait que des hommes. Et à côté de moi, il y avait une voiture. Et dans la voiture, il y avait trois hommes musulmans qui disaient qu'ils allaient faire le djihad à Strasbourg le lendemain. Voilà.
Et là, vous avez arrêté.
J'ai eu peur. J'ai appelé ici la communauté pour donner le numéro de la voiture, voilà. Et puis après, j'ai plusieurs interventions qui m'ont demandé d'arrêter le projet. Pour le moment.
C'est lié à la peur.
Les gens pensaient qu'il y avait un risque. Les gens pensaient qu'il y avait un risque. Ils m'ont demandé d'arrêter. J'ai arrêté peu de temps. Collège de l'Esplanade m'a demandé de reprendre. J'ai repris au Collège de l'Esplanade, j'ai repris à Haguenau, j'ai pas repris le reste. Et puis après, j'ai quand même repris parce que je supportais pas l'idée de m'arrêter. Donc j'ai continué. J'ai eu des menaces de mort, hein, quand même, au téléphone, hein, qui venaient pas de Strasbourg, mais j'en ai aussi eu au téléphone. Donc c'était peu de temps après le 7 octobre, début novembre, j'ai eu un coup de fil anonyme à la maison qui me menaçait qu'il allait m'arriver quelque chose. Voilà. On a trouvé qui c'était. Donc je sais qui c'est depuis. Je ne les connais pas. J'ai porté plainte et la police a trouvé que c'était quelqu'un de la ville de Fontenay-aux-Roses où je venais d'exposer, entre autres, des toiles à la mémoire de ce qui s'était passé le 7 octobre. Mais c'était une exposition sur la Shoah, mais je ne me voyais pas n'y mettre que la Shoah et les autres génocides, c'était sur les justes. Et comme j'avais été sidérée par le 7 octobre, j'avais fait un certain nombre de toiles et j'ai ramené une toile pour le Kibbutz Berry et deux autres toiles que j'ai exposées à cette occasion-là, qui n'étaient pas prévues dans l'exposition. Je ne sais pas si c'est ça ce qui a entraîné. En tout cas, j'ai eu ces menaces de mort qui se sont arrêtées quand j'ai été convoquée par la police, qui m'a dit qui c'était, mais je ne connaissais pas. C'était suite à cette exposition. Donc, il y a quand même une atmosphère qui est pas très saine, on va dire. Hein. Mais j'ai continué dans les classes, j'ai eu aucun problème. Aucun.
Alors, je le disais en introduction, vous êtes artiste de la mémoire. Vous créez des portraits, vous peignez des portraits d'anciens déportés, là également de victimes des attentats du 7 octobre.
Non, ce n'est pas des portraits. J'étais tellement sous la sidération de ce qui s'est passé le 7 octobre que j'ai fait de l'art abstrait. J'ai fait le drame par des coulures, j'ai pas pu peindre des portraits. Je pouvais pas peindre des portraits, en fait. Je pouvais juste peindre l'angoisse d'un drame qui arrive dans quelque chose qui est calme. Voilà, enfin calme. Pour moi, c'est dans quelque chose de paisible, parce que ces kibbutz étaient paisibles, ce coin était paisible. C'est des gens qui œuvraient pour la paix, des gens de gauche qui œuvraient pour la paix, qui n'étaient pas pro-Netanyahou, et qui ont été les victimes d'une barbarie qui, pour moi, était... sans parole, sans pouvoir énoncer. C'est pour ça que c'était, il y avait que l'abstrait qui permettait. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Donc j'étais obligée de peindre ça. Je ne pouvais pas le verbaliser autrement, quoi. Et j'étais happée par ça, hein, longtemps. Je suis un peu sortie, mais je ne suis pas sortie encore.
Et donc ce nouveau projet aujourd'hui, Valise Mémoire, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition ?
Alors l'idée, au départ, ce n'est pas une exposition. L'idée, c'est de faire un projet pour les élèves, qui unissent les élèves, c'est pour ça qu'il doit les unir, comme l'année dernière dans le projet que j'ai fait, c'était unir dans les différents types d'écoles, collège, lycée et lycée professionnel. Ça, c'était le projet l'année dernière. Cette année, c'est l'idée aussi de les unir avec l'Allemagne. Donc, c'était ce qui se rajoute au projet. Et l'idée, c'était à la fois que les élèves intègrent pour s'opposer à la barbarie du monde, que les élèves intègrent que chaque être humain est unique. Pour ce faire, dans ce projet, il y a des témoins qui sont venus leur parler. Et l'idée, c'est que les élèves réalisent une valise qui raconte une histoire et qui est tout plein de valises faites dans chaque école, où chacun peut raconter la valise à laquelle il est sensible ou l'histoire à laquelle il est sensible, en montrant que chaque valise est différente et unique. Donc c'est l'idée vraiment que chaque histoire est unique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais aussi revenir, pas seulement à la Shoah, mais je voulais que ça sensibilise les élèves par rapport à leur propre histoire. Parce que comme les élèves de la deuxième génération d'immigration ne sont pas inscrits dans leur histoire, et je trouvais que c'était indispensable qu'ils s'inscrivent dans leur histoire pour voir que leur histoire est unique, parce que quand on croit en soi et quand on se donne une valeur, on arrive aussi à donner une valeur à l'autre. Si on ne se donne pas de valeur, rien n'a de valeur, on peut mourir. C'est pour ça qu'on commet des attentats suicides. Donc l'idée, c'est qu'ils reviennent à leur histoire, qu'ils aillent questionner leurs parents et leurs grands-parents, qu'éventuellement après, s'ils ont envie, ils retracent ça dans une valise. C'est pour ça que je parlais des exils.
Oui.
C'est ces exils-là, leur exil familial. Mais ils ne sont pas obligés. Soit ils ont envie de le retracer, mais au moins ils sont allés l'écouter déjà, cette histoire, quand les parents sont d'accord, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des parents qui s'opposent et qui ne veulent pas raconter. Mais quand ils sont d'accord, et par exemple à l'Esplanade, il y aura plein d'histoires personnelles qui seront racontées dans les valises. Les élèves ont tous eu envie de raconter leur migration ou celle de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Mais et ça leur donnait cette importance-là également, ben à oui. eux, à leur récit, à leur
exactement.
famille.
Et ça permet aussi d'être sensible à d'autres histoires. Enfin, c'est ce lien-là. Alors, il y a des classes qui travaillent plus sur la Shoah. Il y en a d'autres. Alors, à Agno, ça va être sur des sujets qui, pour l'instant, il faut que je découvre. Des grands sportifs et d'origine étrangère. Bon, on va voir pourquoi ils ont mis ça, parce que ce n'est pas l'objectif. L'objectif du projet, c'est vraiment de raconter une histoire individuelle où il y a une migration, que ce soit pour éviter la mort dans la Shoah, ou parce qu'on est mort et qu'on est parti dans un camp, c'est de retracer dans une valise le parcours de quelqu'un, quoi. Et après, de montrer, l'exposition, elle sera fin juin, début juin, le 6 juin, et là, il y aura une exposition des valises des différentes écoles. Alors, impossible d'avoir toutes les valises, parce qu'il y a peut-être 200 élèves concernés par le projet, hein. Peut-être même plus, je ne sais plus. Donc non, il y aura des photos de valises avec un QR code à côté qui permettra d'écouter l'élève qui fait parler la valise. Parce que l'objectif, ce n'est pas de voir l'élève. L'objectif, ce soit que la valise parle.
Et de l'entendre surtout, voilà. D'entendre voilà. Ce récit.
Donc il y aura ça et des valises, hein, mais pas toutes.
Donc là, l'idée, c'est que le 8 avril, vous... lancer
on lance le projet.
L'opération, le
voilà.
Projet.
Alors, le projet, il a déjà démarré dans les fêtes, parce que moi, j'ai quand même démarré depuis longtemps, mais officiellement, parce que tout a pris du retard à cause du 7 octobre, tout a pris du retard, donc on a obtenu des subventions. Friedrich Peter s'est occupé de ce terrain-là. C'est-à-dire qu'il a obtenu des subventions de plusieurs fonds franco-allemands. Il y a le Baden-Württemberg Stiftung, il y a la LICRA qui a soutenu aussi, et la LICRA 67, il y a le Rotary qui a soutenu, et puis il y a le... Là, la question, elle est de présenter le projet, donc j'ai fait une valise spécifiquement pour ce soir-là. Il y aura d'autres installations de valises, mais les miennes, en fait, qui seront présentées. Et il y aura des élèves du côté allemand et du côté français qui vont jouer de la musique, toujours dans le cadre du lien. Donc il y aura un élève ukrainien qui va témoigner de sa venue en France d'Ukraine, et comme ça a été difficile pour lui ce déplacement. Donc c'est des élèves de Kiel et d'autres élèves de Pontonnier qui vont intervenir. Et puis autrement, on va présenter le sens du projet, quel est l'objectif. Et le projet se terminera, pas tout à fait, mais il sera clôturé officiellement, on va dire, avec une exposition le 6 juin qui montrera les valises, les réalisations des élèves. Et qui sera ouvert, avant ça, il sera... Les valises seront présentées dans chaque école pour que chaque classe qui a participé puisse expliquer à d'autres classes de chaque école le sens de leurs valises, pour qu'il y ait une vraie transmission interne dans l'école. Mais ça se terminera avec un finissage officiel, là, toujours à la chapelle de la rencontre, avec les valises, un choix de valises des élèves, pour que là, ce soit présenté au grand public.
Francine Mérand, vous êtes, je le disais en introduction, psychiatre. Vous allez, vous, à la rencontre des lycéens. Vous, ce qui vous importe ici, dans cette opération, c'est cette transmission de mémoire, on l'entend, c'est un nouvel éclairage également sur ces histoires, transgénérationnelles, hein, qui viennent souvent, qui remontent à loin. Ce sont vos origines juives, vous avez aujourd'hui encore un travail à faire, et peut-être la transmission de cette mémoire. Vous avez cherché, vous, d'où vient ce besoin d'être dans le partage et au-delà de ça, de réaliser ce travail de mémoire auprès des plus jeunes.
En fait, je pense que je ne situe pas forcément clairement, parce que je vais vous donner un exemple très récent. J'étais à Paris le week-end dernier, je suis allée voir une exposition, je ne m'attendais à rien du tout. C'était l'atelier de Hanna Orloff, C'était une visite guidée de l'atelier. On avait prévu de voir l'exposition qui avait lieu au musée Zadkine. Ça, c'était prévu, mais j'ai rajouté l'atelier. Et l'atelier était visitable par la petite fille de Khanna Orloff, qui était là, et qui a raconté l'histoire de Khanna Orloff, qui a eu, qui est partie d'Ukraine pour partir en Palestine, puis de Palestine, elle est venue en France, parce que c'était le pays de la mode, voilà, elle est venue pour en tant que couturière, elle est devenue artiste, sculptrice, et elle a raconté toute son histoire avec le Veldiv, comment elle l'a échappé, comment elle est partie, comment elle a été sur Genève, elle est revenue, et après elle était à cheval sur Israël et la France. Mais je savais parallèlement que la famille de Khanna Orloff était dans le kibbutz Be'eri, qu'il y a 10 membres de la famille Orloff qui ont été victimes, il y en a 3 qui sont morts, assassinés le jour même, et il y en a 7 qui ont été pris en otage, dont 6 ont réchappé, ont été récupérés lors de la première libération d'otages. Par contre, le papa, avec 3 enfants dans l'histoire, des petits, hein, 3-5 ans, et le papa est toujours là-bas otage. Je savais ça. Mais toute l'histoire qu'elle a racontée, plus ça, ça m'a ébranlée complètement. Donc, je suis allée la voir après. Et là, je ne maîtrise pas ce qui se passe chez moi dans ma tête. Je lui ai dit, je vais faire une valise pour Khanna Orloff, pour votre histoire. Est-ce que vous seriez d'accord de venir? Elle m'a dit oui. Je lui ai proposé de venir l'année prochaine parce que mon projet il va être pérenne. Ce n'est pas juste cette année puisqu'on pourra le renouveler l'année prochaine. Et puis, je lui ai dit que le 6 juin, il y aura une exposition des valises et il y aura la valise de Khanna Orloff. Alors, elle m'a dit, si je suis là, puisque je suis entre Paris et Israël, je viens le 6. Bon, la valise, elle est faite. Je suis rentrée lundi. Hein. La valise est faite. Elle est quasiment... Demain, elle est finie. J'étais prise au piège. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ce qui se passe. Ça m'a tellement pris au trip, ça m'a tellement émue que je me suis dit, il faut que je transmette cette histoire. L'histoire m'a pris. Donc, après, je ne peux pas vous répondre ce qui
me
touche.
C'est la transmission.
Il y a un truc là qui est... C'était... Et puis, surtout que ça se relie à Be'eri, quoi. Moi, j'ai fait un paravent à la mémoire du kibbutz Be'eri qui montre avant, pendant, après. Et le fait que cette histoire se relie avec ce qui se passe aujourd'hui, c'était une évidence. Je ne pouvais pas ne pas le faire, la valise. Du coup, je vais la présenter dans toutes les écoles maintenant, cette valise. Donc, je la présente la semaine prochaine, j'interviens à Agno. Je vais raconter Khanna Orloff. Et puis, en même temps, ça montrera aux élèves comment on fait une valise. Puisque jusqu'à présent, je leur disais, il faut faire une valise, mais je ne montrais pas une vraie valise. J'avais une valise avec des portraits dedans. Mais ce n'est pas une valise qui raconte une histoire. Maintenant, il y a une valise et ce sera toujours, dans tout le projet, ce sera Khanna Orloff que je raconterai. Donc là, ce n'est pas mon histoire personnelle, c'est que j'ai été émue par cette femme. Et en général, je suis émue par quelqu'un, en fait. Et c'est ça qui fait la transmission. Je suis vraiment, quand je dis prise au piège, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, je suis émue, complètement transie par... J'arrive plus à quitter cette histoire sans en avoir fait quelque chose. Et c'est vraiment la transmission. C'est comme si... Il faut que je m'en débarrasse, quelque part. C'est là, il faut que ça sorte et qu'il y ait quelque chose qui la mette à plat, enfin, qui la mette devant. Donc, la même chose, quand j'ai posé la Stolperstein pour mon grand-oncle, je n'avais pas tellement prévu, je l'ai fait comme ça, pour mon père, à la mémoire de mon père. Et quand je l'ai posé, depuis que j'ai fait cette Stolperstein, mon grand-oncle est dans toutes mes interventions scolaires. Ce que je ne faisais pas avant, il était là, je l'avais fait pour mon père, il est dans ma valise. Je transmets mon histoire dans une valise, mon histoire. Et entre autres, il y a René Klein, mon grand-oncle, qui est dans la valise. Et donc, je raconte l'histoire à chaque intervention dans l'exposition valise, enfin dans le projet valise. Donc, ça fait le lien avec mon histoire.
Francine Méran, merci infiniment déjà de votre générosité, de ce que vous nous donnez, des actions que vous menez envers nos adolescents qui aujourd'hui ont peut-être besoin aussi de ce repère, qui ont besoin de poser peut-être leur valise, je ne sais pas si l'expression est heureuse.
Ouais.
En tous les cas, merci à vous, merci de votre intervention. Puis on donnera évidemment tous les éléments pour les gens qui veulent assister à l'exposition, à la soirée de lancement et ensuite à l'exposition. Merci.
Merci.
L'invité de la rédaction.